Avec 8% seulement de couverts forestiers, la nature semble se faire rare dans le Nord et le Pas-de-Calais. Vous l'avez entendu dans la première partie de cette émission en forêt normale, la main de l'homme n'est pas étrangère à ce déficit de biodiversité. Dès lors, quel rapport le Nord de la France peut-il vraiment entretenir avec la nature ?
Laure Domini, socio-anthropologue au laboratoire Ethics de l'Université catholique de Lille, s'interroge sur la relation entre l'homme, la nature et les techniques. Vous découvrirez également l'artiste Théo Imago, originaire de Hénin-Beaumont, qui, à travers la musique, explore son propre rapport à la nature. Son dernier album intitulé Refuge, enregistré en forêt de Mormal, est sorti le 20 janvier 2023.
Préparez-vous enfin à une excursion à Beuvry-la-Forêt. Eh oui, loin des pavés des villes, découvrez le microfeuillu. Le Nord perd-il racine ?
Je suis Adrien Leroux.
Et moi, Quentin Saison.
Et vous écoutez le deuxième épisode de cette émission Dont perd le Nord.
Bonjour Laure Domini, merci de recevoir On perd le Nord. Vous êtes socio-anthropologue de l'environnement, de l'énergie et des techniques, si j'écorche rien. Vous travaillez à l'Université catholique de Lille en ce moment, notamment sur le rapport entre technique et environnement. Là encore, si je ne me trompe pas, voilà, très bien. Donc nous, là, on se concentre sur les forêts. On parle beaucoup de nature dans ce podcast et dans l'émission qui est réalisée en ce moment. Mais c'est un terme qui est très large. Donc concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de nature et qu'est-ce qu'on perçoit collectivement en France comme relevant de la nature ?
Alors intuitivement, ce qu'on entend par nature, c'est ce qui n'est pas l'homme. C'est souvent la définition qu'on retient en premier, tout ce qui ne dépend pas de la culture et de l'humain. Mais c'est une définition qui est rediscutée. C'est une vision très naturaliste de nos rapports à la nature, c'est-à-dire qui sépare finalement la nature de l'homme. Or, justement, les travaux plus récents se demandent dans quelle mesure la nature est humanisée. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a encore cette nature vierge de l'homme ? C'est discutable. Est-ce que pour autant, ça n'est plus de la nature ? C'est aussi discutable. Est-ce qu'il y a eu une fin de la nature ? Il y a des auteurs qui ont discuté cette question-là. Est-ce que parce que ces interactions ont créé des objets hybrides, est-ce que la nature finalement a une histoire ? Est-ce que pour autant elle n'en est plus de la nature ? On peut l'interroger, notamment avec des faits comme le réchauffement climatique. Typiquement, c'est un objet hybride à la fois très naturel et très culturel. C'est comment des objets culturels, les émissions de CO2, par des processus naturels, le réchauffement climatique crée, l'effet de serre, ont créé le réchauffement climatique.
Et justement, dans un environnement qui est très industrialisé, très urbanisé, comme le Nord-Pas-de-Calais, où, à titre d'exemple, on a 8% de couverts forestiers, ce qui est très peu par rapport aux autres départements, dans quelle mesure il faut redéfinir le terme de nature pour s'approprier sur le territoire, et même est-ce que la nature existe encore quand il reste quelques espaces comme les forêts, mais qui eux-mêmes sont anthropisés et où l'homme a un impact assez important.
Alors, elle existe encore, oui, parce qu'elle se rappelle à nous, hein, comme je vous le disais, notamment à travers le réchauffement climatique. Là, on voit que les processus naturels existent toujours, hein, même si nous les infléchissons, nous influons dessus. Néanmoins, ça nous invite effectivement à redéfinir ce qu'on entend par nature et peut-être travailler sur cette nature au quotidien. Quels espaces naturels on veut avoir autour de nous ? Est-ce que, effectivement, ces 8% de couverts forestiers, est-ce que c'est pas trop peu pour aussi notre bien-être, hein. De plus en plus d'études montrent que il y a un réel bien-être et amélioration notamment de la santé à la vue de la nature, ne serait-ce que par une fenêtre, de voir un arbre par sa fenêtre. Un grand nombre d'études ont montré que ça avait un vrai impact positif sur les travailleurs dans leur situation de travail, sur les malades qui sont à l'hôpital, etc. Donc on voit bien qu'il y a un vrai impact de cette nature autour de nous. Donc qu'elle ait disparu, non, je n'y crois pas, mais qu'il faille effectivement interroger la place qu'on veut lui accorder, certainement.
Sous la cime de Beuvry-la-Forêt, le microfeuillu. Alors pourquoi vous avez bien venir en forêt et pourquoi vous êtes en forêt là maintenant tout de suite ?
Parce qu'on a fait un peu fort hier, quand on vient se relâcher. C'est pas vos femmes qui vous ont amené jusqu'ici?
Si, c'était une obligation.
Sinon, pas d'apéro.
Il n'y a pas d'apéro, sinon.
Ces messieurs m'ont dit que vous les aviez traînés de force juste en forêt de...
Non, non, mais pourquoi? Tu veux vraiment que je dise pourquoi?
Mais pour perdre un peu de bedaine. Parce que ça vieillit, hein, et puis ça bouge pas. Bah, donc,
pour elle, hein.
Voilà. On respire, puis on s'active.
Ouais.
Vous parliez de deux visions de la nature, et d'ailleurs du coup je fais un petit retour en arrière. Vous parliez de deux visions de la nature, peut-être que ces deux visions qui sont plus ou moins en confrontation, c'est justement celle de dire soit on exploite la forêt, ou l'autre qui serait de dire on exploite notre forêt et nous qui sommes dépendants de celle-ci et qui sommes dedans, par exemple, pour parler de la forêt de Mormal.
Oui, on peut voir soit une... une extériorité d'exploitation, de voir, vous savez, il y a toutes ces éthiques aussi de, alors soit de conservation, on va conserver la forêt, soit on va la restaurer, et une voie parallèle, une vision écocentrée serait plutôt celle de dire, eh bien, on vit dans et avec cette forêt, donc on peut couper un arbre, mais on va s'attacher à ne pas couper toute la forêt, faire en sorte d'être, d'avoir une durabilité de renouvellement de la biodiversité, des sols, des arbres, et aller contre une vision très, très économique et aussi parfois, j'ai envie de dire, technocratique de la forêt du vivant. Cette idée, par exemple, de compensation, vous savez, qu'on puisse raser une forêt quelque part et puis se dire, mais c'est pas grave, on en recrée une ailleurs. Un ne vaut pas un, c'est-à-dire que la forêt qu'on recréera ne sera jamais identique d'un point de vue de la biodiversité à celle qu'on a rasée, parce qu'il y a tout un tas justement d'écosystèmes qu'on ne sait pas recréer. C'est là où sont les limites de l'homme. On n'a pas découvert toutes les interactions et on est bien incapable de recréer cette richesse du vivant qu'on détruit. Donc un changement, un pas de côté est effectivement aujourd'hui de se rendre compte que non, on ne peut pas compenser ces effets, il faut vivre, comme vous le dites, dans la forêt, avec, de manière harmonieuse. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Néanmoins, un grand nombre de sociétés y sont arrivées. Je crois que cette vision occidentale montre aussi ses limites et son unicité. C'est-à-dire que ça n'est pas... c'est loin d'être universel comme vision du monde et comme rapport à la nature. Et on peut s'inspirer de d'autres rapports à la nature, de d'autres sociétés.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pourquoi vous venez en forêt?
Pour respirer l'air frais. Et puis, c'est agréable.
Vous voyez beaucoup d'animaux ici?
Non, 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 c'est rare. C'est très rare. Oui, ça nous a déjà arrivé de voir une biche. Mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Et on ne le dira pas. Où est-ce qu'ils étaient? Parce que bon, il y a les chasseurs.
Et là, qu'est-ce que vous faites là maintenant tout de suite?
On chasse. On chasse.
Et vous chassez, vous faites des battues en forêt?
Moi, j'ai arrêté tout ça. Maintenant, je vais vers 70 ans.
Vous en avez fait, hein?
Oh, j'en ai fait beaucoup. J'ai chassé beaucoup. Mais disons, maintenant, je me suis calmé, quoi. Ouais, moi, aujourd'hui, je me promène, je suis fier de me promener, quoi. Mais bon, je vais pas dire qu'on... Nous, c'est vrai qu'on aime bien attirer du gibier, mais toute l'année, il faut savoir qu'on s'occupe du gibier. Toute l'année, nous, on met des tonnes de blé, de trucs pour élever des faisans, pour maintenir les faisans. Pour
alors après, il y en a qui disent que justement, vous les égrenez pour pouvoir les tirer.
En quelque part, c'est pas faux. Hein. Moi, je peux dire que c'est vrai, c'est donnant-donnant, si vous voulez. Ah, mais quelqu'un qui élève du gibier, bah, qui élève des poulets chez lui, il les nourrit, je sais pas quoi faire. Ah, c'est bien pour les manger, c'est bien pour les tuer. Hein. Donc, quelque part, nous, en plus, ils ont une chance, parce que comme ils sont dans des secteurs qui ne sont pas grillagés, ils ont toutes leurs chances de vivre. Hein. Ouais, c'est au plus malin, quoi, disons.
Nous avons maintenant interrogé Laure Daubigny sur la prise de conscience de la perte de la biodiversité et les actes mis en place pour essayer de la protéger.
C'est difficile à évaluer. Mais dans le sentiment d'action, notamment de la jeune génération, moi, je trouve qu'il y a, il y a des choses positives, parce qu'effectivement, le constat que les insectes disparaissent, ou que les oiseaux, c'est plutôt des générations plus anciennes qui vont pouvoir faire ce constat, parce que les jeunes, eux, n'ont pas connu ces insectes sur les pare-brises, etc. Donc, ils ne peuvent pas éprouver ce manque-là. Néanmoins, ils se rendent bien compte de l'urgence écologique et d'une nécessité de changement de nos rapports à la nature. Je pense au nombre de jeunes qui sont végétariens. C'est loin d'être anecdotique. Et c'est souvent pour des raisons environnementales ou de protection de la cause animale. C'est intéressant. Ça dit quelque chose, ça dit quand même un changement donc de pratique et un changement social dans nos rapports à la nature. Je pense que ce n'est pas anecdotique.
Et c'est maintenant l'heure de la virgule musicale avec Toi Imago.
J'ai grandi à Hénin-Beaumont, dans la cité de la Pouplerée, pour être précis. Donc c'est vraiment dans le bassin minier. Et on peut dire que j'y ai grandi bien avant que ce soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aujourd'hui, cette classification en fait un endroit finalement où la nature est un peu centrale, avec de vrais îlots de nature, des bois, des forêts, dans des endroits où il n'y avait que des friches industrielles assez abandonnées finalement. Pour moi, la forêt, c'est un endroit un peu paradoxal. C'est un endroit un peu mystérieux et en même temps, on sent bien, un endroit qui fait peur et en même temps fascinant. En fait, c'est un peu une sorte d'ailleurs de proximité. La forêt, c'est aussi un endroit qui est en quelque sorte l'emblème de la nature. Et le paradoxe, c'est qu'il y a très peu de forêts, on va dire, primaires, et que bien souvent, les forêts, elles ont été à la base installées ou créées par les hommes et puis elles se sont étendues par la suite. Mon dernier album Refuge, je l'ai fait à cette période du confinement où j'avais besoin justement de cet ailleurs, et l'ailleurs le plus proche, c'était la forêt. Du coup, je voulais faire un album en forme de refuge, d'où le nom. Et puis vu que c'était un moment où il y a une sorte de reconnexion avec la nature, j'ai pensé que mettre la forêt en toile de fond de cet album pourrait être une bonne idée. J'ai l'impression que c'est une bonne idée. Donc c'est un album assez immersif et une sorte de voyage dans une forêt. On l'entend toujours en fond, c'est la forêt de Mormal qu'on entend en fond. Et dans cette forêt de Mormal, il y a les sons des machines qui vont se mélanger avec les sons de la forêt, puisque j'ai diffusé les sons de mes machines que j'avais pré-enregistrées dans la forêt pour ensuite les réenregistrer et capter en fait la réverbération de la forêt.
Justement, on peut parler du Bhoutan, qui est l'un des trois seuls pays au monde qui n'émet pas de carbone, qui n'émet d'ailleurs moins de carbone que son industrie. Il y a plus de 70% de forêt, d'une part. Après, ça reste un pays qui est... il y a moins d'un million d'habitants. Donc, à l'échelle de la France ou des grandes nations occidentales, est-ce que c'est possible, en fait, de passer vers ce modèle-là?
Là, je serais bien incapable de vous dire, hein, d'un point de vue forestier, si on peut pour avoir une telle échelle et une moindre empreinte à ce point, notamment d'un point de vue énergétique, se passer des énergies fossiles, ça veut dire aussi aller davantage vers des énergies renouvelables que sont pour le thermique, le bois, la biomasse ou le solaire. Il n'y a pas 400 solutions. Hein. Donc, ça voudrait dire peut-être avoir un plus fort prélèvement de biomasse pour se chauffer, ce qui peut tout à fait être bien géré si on renouvelle assez rapidement, que les arbres plantés, enfin, coupés soient replantés, etc. Mais ça demande une gestion effectivement minutieuse si on ne veut pas avoir un paysage désolé et encore plus rasé qu'il ne l'est. Il y a des vrais défis.
Et peut-être pour finir, une question plus personnelle ou pas, ça dépend comment vous voulez répondre. On manque de nature aujourd'hui dans le Nord?
Je trouve que c'est une région qui quand même est très urbanisée, comme vous le disiez dès l'entrée. Après un certain nombre d'initiatives, je pense à tout ce qui est fait dans le bassin minier, vers Los Angeles, pour justement ramener de la biodiversité sur des terres qui ont vraiment été brûlées, j'ai envie de dire.
Des terrils aussi, voilà. Par exemple.
Qui ont une biodiversité énorme, sont très intéressants. Donc là encore, on voit qu'on n'interrompt pas les processus naturels, quand même, là où on a complètement humanisé le paysage, comme c'est le cas dans les bassins miniers. Eh bien, là, il y a quand même un vivant qui perdure et qui crée des nouvelles conditions. Je sais qu'il y a des orchidées rares sur les terrils, et des espèces qui sont venues pour tout un tas de raisons et qui créent une biodiversité qui n'existait pas il y a 100 ans. Mais pourquoi pas, ça montre l'impact des interactions homme-nature, homme-environnement. Mais effectivement, je pense que faire un peu plus de place à la nature, notamment dans les villes, hein, moins de place à la voiture, voire plus de place à la voiture... Et faire de la place à des voies vertes, à des arbres en ville notamment, je trouve que ce serait quand même agréable. Et après, d'un point de vue aussi du confort de vie, ça évite les îlots de chaleur, ça rafraîchit les villes, ça va nous permettre aussi d'assumer des enjeux qui vont devenir de plus en plus présents et de plus en plus difficiles. Le réchauffement climatique, ça s'accélère et on le ressent bien. Donc il va y avoir un vrai enjeu à refroidir nos villes et nos centres très construits, très urbains.
Merci d'avoir écouté cette émission d'On perd le Nord, dédiée aux forêts de la région et à notre rapport au vivant. Vous l'aurez compris, les arbres se font rares dans le coin. Et l'artificialisation du territoire réinterroge notre rapport au vivant. Peut-on encore inverser la tendance?
On vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. D'ici là, retrouvez tout le contenu d'On perd le Nord sur notre site web ainsi que sur nos réseaux sociaux. Vous y consulterez notamment des formats approfondis pour mieux comprendre les enjeux environnementaux dans le Nord et le Pas-de-Calais.
À très vite!